Thank you. One question regarding the first presentation this morning for related to NARCAP and airspace from planes. You mentioned the fact that we need to have a better database worldwide about these cases. My question is towards GEPAN. Is there any collaboration between GEPAN and NARCAP about the airplane cases? And if any statistical study has been made comparing the truly unidentified cases between the French cases and the airplane American cases? Thank you.
Today, there is no formal agreement between NARCAP and GEPAN, but we have a very strong friendship. We talk together, but we have not yet exchanged, for example, cases report and so on. Because, France, GEPAN is working only on French reports, and of course, NARCAP French cases are very few, I think.
You may not be aware of the fact that NARCAP is only at a U.S. Organization, and we've limited ourselves to the USA. If other countries are interested in this idea of flight safety and making flying safer relative to this phenomena, they can start their own NARCAPs, if you will. And so far, we have 14 countries that have done that. And there's several new ones about, I think, ready to get started. So I think that may be part of an answer to your question here. But Japan and your activities here are more than capable of dealing with them. You don't need our help.
Well, what we can say is that the Japan UAP sighting reports taken by pilots are quite rare and generally very common cases that generally atmospheric reentries and meteors or debris. And we have not really strange cases reported from pilots. That's why we have nothing. We have very few information to report to NARCAP.
Just one last comment. Our experience over the last 10 years just in the United States is averaging about one good solid sighting a year. So from just a management administrative point of view, how we're using funds and talent and time, we're pretty inefficient. One case a year, does that justify a whole national organization? Well, most people would shake their head and say no. If we can save one airplane from crashing, having an accident, if you will, it'll be worth it. That's our philosophy.
Ouais, s'il y a d'autres questions, donc je vous rappelle, essayez de préciser dans votre question à quel orateur ça s'adresse, hein, de l'exposé ou d'un poster, pour savoir tout de suite à qui passer le micro.
Juste une question concernant ton intervention, Gilles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire combien d'enquêteurs sont formés à ce nouveau standard pour le GEPAN?
Disons que pour l'instant, il n'y a pas de nouveau standard. Moi, j'ai juste donné des idées personnelles sur l'évolution du modèle séquentiel vers un modèle plus collaboratif. Bon, au GEPAN, il y a j'ai pas exactement une vingtaine d'enquêteurs qui commencent à travailler de façon collaborative, indépendamment de ce que j'ai dit, moi. Xavier va pouvoir répondre davantage. Il commence à y avoir des amorces de travail collaboratif. Il y a des choses qui se mettent en place, qui existaient déjà un petit peu avec les experts et qui existent également dans d'autres structures. Je pense que c'est un mouvement qui est en train de naître, une façon de faire qui est en train de se développer et qui devrait sûrement se développer. Je laisse Xavier donner son opinion.
Et aujourd'hui, le fonctionnement du GEPAN est plus proche de ce que Gilles présentait comme le fonctionnement traditionnel, hein, avec les enquêteurs, les experts, etc. Et on commence effectivement tout juste à faire un peu de collaboratif sur certains sujets, sur certaines enquêtes. Voilà. Voilà. Par contre, en termes de formation, les enquêteurs GEPAN sont tous formés à l'entretien cognitif, hein, dont on va peut-être encore parler. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Et effectivement, j'ai l'intention de développer cet aspect collaboratif, mais qui n'est possible, je dirais, que pour l'aspect vraiment investigation. Pour l'aspect collecte de données, on est encore sur quelque chose de traitement très individuel, bien sûr.
Donc la collecte de données, j'ai parlé de tâches partagées ce matin, et la collecte de données est une de ces tâches prioritaires d'ailleurs, qui va être confiée à certaines personnes. Et l'avantage du collaboratif, c'est que pendant que certains vont déjà chercher les informations sur place, les autres peuvent déjà faire des investigations diverses et variées, là où il y a de l'information récupérée rapidement. Par exemple, des manifestations publiques ou autres dont les traces disparaissent rapidement, des enregistrements radars ou des choses comme ça qui peuvent être demandées officiellement. Tout ça, ça peut se faire en parallèle pendant que l'enquêteur, lui, va s'occuper... L'enquêteur, au sens premier du terme, va s'occuper d'aller rencontrer les témoins. C'est là qu'on peut gagner du temps, en plus du fait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent simultanément et en symbiose, ce qui fait qu'il y a une adjonction des compétences qui ne sont pas... L'union fait la force, dit-on, et je crois que ça se vérifie. Il y a déjà quelques exemples qui le montrent. D'autres questions ?
Une autre question ?
Une question pour Jean-Pierre Rospar. Son intervention était sur un fichier de 1970 à 1979. Est-ce que vous avez commencé à rechercher quelque chose, un fichier plus récent qui pourrait corroborer en fait ce que vous avez trouvé dans ce fichier plus ancien ?
Oui, disons que ça fait partie des choses à faire à l'avenir. Mais pour l'instant, je me limite à ce fichier qui a déjà nécessité beaucoup de travail.
Alors, je vais compléter ta question. Jean-Pierre est un peu spécialiste des cas anciens. D'abord parce qu'il a travaillé dessus à l'époque où il travaillait avec le GEPAN depuis bien longtemps. Voilà. Une autre information, je vous informe que sur le site du GEPAN, vous pouvez télécharger un résumé de tous les cas d'observation publiés sous forme base de données. Donc, tous ceux qui veulent faire des études statistiques sur des heures, sur les heures d'observation, sur les lieux, sur le classement, etc., sur le site du GEPAN, vous téléchargez c'est au format CSV, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est très facile à intégrer après sur un Excel ou quelque chose comme ça. Vous n'avez rien à nous demander, hein, c'est un téléchargement gratuit. La seule chose, c'est que les fichiers ne sont peut-être pas tout à fait à jour. Aujourd'hui, on a des cas qui doivent avoir un an ou... Voilà, d'accord. Pour l'instant, donc c'est jusqu'à il y a à peu près un an. Ce serait pas mal d'ailleurs de se programmer pendant l'été, peut-être de se faire une mise à jour. Voilà. Et je vais même un peu plus loin. Allez. Certains dans l'Assemblée ont pu bénéficier de l'ensemble de ce fichier, non seulement sur les cas publiés, mais sur les cas non publiés. Donc si vous nous demandez gentiment. Voilà. Bien que le GEPAN a toujours juré de ne publier que les cas totalement investigués, je peux fournir aux spécialistes la base de données des cas non encore publiés.
D'autres questions ?
Je reviens sur la présentation de Mme Gaëlle Fedas, que j'ai trouvé originale. J'ai moins une question qu'un commentaire. Le calcul inverse est déjà couramment utilisé, par exemple, pour déterminer les sources de bruit d'un avion. Qu'est-ce qu'on fait ? On dispose des microphones sur une croix. Alors, c'est une croix en France, c'est l'honneur qu'il fait, ou sur un cercle en Allemagne, c'est l'air qu'il fait. Et on fait des survols de l'avion dans différentes conditions de vol, avec des conditions d'atterrissage ou autres, et on détermine comme ça quelles sont les sources de bruit, est-ce que ça vient des moteurs, des volets de bord d'attaque, des volets de bord de fuite, etc. Donc c'est tout à fait courant. Hein.
J'avoue que je l'ignorais, ceci étant, je pensais plus à des... ça corrobore ce que je disais, donc ça va tout à fait dans mon sens. Je pensais plus à des phénomènes très locaux, où les sources sonores seraient moins des micros positionnés de façon relativement distante les unes des autres, qu'à des phénomènes relativement ponctuels où les micros, si j'ose dire, seraient plus des films de caméscope ou des enregistrements de particuliers. Donc un phénomène qui n'aurait pas l'envergure, ou plus exactement les envergures de trajectoire d'un avion, mais qui pourrait être sur quelques mètres ou quelques dizaines de mètres. Ceci étant, oui, le calcul inverse, bon, ça fait 100 ans qu'on l'utilise dans divers domaines. C'est pas par hasard que je citais l'échographie, qui est un domaine que tout le monde connaît.
Une question ici.
Oui, une question pour François Louvange. Au travers des photos que vous avez pu examiner, argentiques ou numériques, est-ce qu'il y a des photos qui ont résisté à toute analyse et qui laissent supposer qu'on a un vrai pan non identifié ?
Ça, c'est la question que je redoute toujours, parce qu'on la pose très naturellement. En fait, je suis bien embêté pour répondre, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des tas de photos qui résistent à l'analyse pour une raison très simple, qui n'est pas un défaut, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations, on ne peut rien en faire. Quelqu'un peut très bien photographier un point lumineux sur ciel noir, et ça peut très bien être des extraterrestres en visite sur Terre. Je veux dire, moi, je n'aurai qu'un point lumineux sur point, on ne pourra rien en faire. Donc, non, malheureusement, j'avoue que quand on s'est attaqué à McMinnville, j'espérais secrètement qu'on allait ne pas trouver d'explication, parce que dans mon enfance, j'avais vu ça, je trouvais ça sympa et tout. Bon, on a trouvé une explication, mais non, j'ai pas vraiment. Je parle souvent d'une photo de Costa Rica qu'on connaît depuis longtemps, dont on ne sait pas si c'est un objet volant ou un objet coulant ou un objet. Bon, c'est vrai que ça reste un mystère, mais c'est une photo orpheline. Hein. Il y a rien d'autre, personne n'a rien vu, il y a une photo. Donc je suis très embêté, je suis très très preneur de candidats photos dont on pourrait dire enfin voilà quelque chose sur lequel on a pu travailler.
Juste pour compléter, est-ce à dire que toutes les photos sur lesquelles on pousse l'investigation, elles tombent avec les outils que vous avez ?
Oui, celles que nous avons faites avec les moyens limités qui sont les nôtres. Hein, on ne peut pas tout traiter. Il existe peut-être dans la nature des photos absolument extraordinaires qu'on n'a pas eu la chance de rencontrer. Mais jusqu'à présent... Alors, la difficulté aussi, c'est qu'on a un gros avantage avec l'époque d'Internet et tout ça, et des mobiles et tout, c'est que ce qu'on disait dans le temps, à savoir, il y a peu de chances que quelqu'un ait un appareil photo sous la main, prêt à l'emploi, est complètement tombé, parce que tout le monde a toujours à la main un appareil photo et passe sa vie à tout photographier. L'inconvénient, c'est qu'il y en a partout, que ça devient un sport national de fabriquer des vidéos folkloriques sur... Bon, et que c'est démoralisant. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Mais c'est pour ça qu'on continue à travailler. Je voudrais insister sur le fait que le but n'est jamais de faire du debunking, encore une fois pour le debunking, pour se faire plaisir scientifiquement. Non, on se dit, tout ce qui est fait, ça fait 60 ans qu'on travaille les uns et les autres, et en gros, rien n'a progressé depuis sur la connaissance des pans, il faut être clair. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est préparer le terrain avec des méthodes, comme ça a été dit très justement, et très, de façon très intéressante, des méthodes d'interrogation, des méthodes de ceci, cela, des outils pour traiter l'image, des dispositifs pour essayer de capter des phénomènes. On avance en mettant en place des choses qui seront les plus efficaces possibles le moment venu, si on peut trouver un phénomène pour lequel on a des données qui répondent à la problématique. Voilà.
Je vais compléter la réponse par le point de vue GEPAN. D'une part, déjà, on ne prend pas en compte sérieusement, on va dire, toutes les photos sans témoignage direct, bien qu'on y réponde généralement. On fait une réponse informelle, mais enfin, on ne crée plus de dossiers quand il y a des photos bizarres, mais que les témoins ne disent pas avoir vu quelque chose. Ça, c'est une première chose. D'autre part, à la question, y a-t-il des photos, y a-t-il des cas inexpliqués avec photos ? Donc, moi, les journalistes me posent la question chaque fois qu'ils viennent me voir, et je suis désolé de répondre non, au GEPAN, en tout cas, voilà. Bon, par contre, hier, vous voyez, Leslie Kane m'a aiguillé sur un article d'une observation qui a eu lieu au Chili avec 4 témoins et une série de photos, un phénomène qui a duré plus d'une heure. Donc il y a plusieurs photos, il y a des témoignages humains, là on est sur du bon. Là. Alors il faut après vérifier si ce n'est pas un canular, etc. Mais enfin, disons, en premier abord, il y a de la matière. Voilà, alors après, donc François, c'est pas sur le territoire français, donc le GEPAN ne s'y intéressera pas en premier chef. Mais il y a une petite matière là de s'exciter pour les ufologues, parce que là on aurait enfin un cas solide avec plusieurs témoins. Alors ils sont pas indépendants, c'est les 4 travailleurs de même équipe. Enfin déjà plusieurs témoins, c'est déjà bien. Plus plusieurs photos et un phénomène durable. Donc il y a un bon sujet d'exercice pour l'assemblée ici.
Pour compléter le complément,
me revient juste une idée pour compléter le complément. Dans les archives françaises, on a quand même ce vieux cas dont on parlait l'autre jour du lac Chauvet. Ça date d'avant la création du GEPAN, qui à l'époque avait été jugé aussi authentique qu'on pouvait le dire par celui qui avait fait le travail. Et on a mis dans nos organigrammes de travailler sur de revenir à fond sur ce dossier d'ici la fin de l'année. Donc peut-être qu'on trouvera un cas français qui était là et qui était. C'est quand même un cas intéressant avec plusieurs jolies photos de l'information, mais c'était des photos argentiques. On n'a plus les négatifs originaux. Enfin bon, on verra. Il y a des scans qui semblent assez fiables, enfin qui sont vraiment des scans d'époque où on voit la pellicule. Enfin, c'est pas autre chose. Mais on verra, là c'est ouvert, je ne peux pas faire de prédiction, aucune idée.
Je suis désolé de reposer une question, mais bon, on a encore une journée, mais en entendant encore M. Louange, Jean-Pierre Raspard, qu'est-ce qui vous reste dans les dés alors? C'est quoi les dés qui restent au GEPAN? Parce qu'on a tous envie de savoir qu'est-ce que vous avez. On est là pour ça, non, je crois? Non.
Alors d'abord, on n'est pas là pour ça. Ce n'est pas le cadre de l'atelier. Donc là, je vais esquiver en vous aiguillant sur le site web. Voilà. Si je fais un catalogue, ça va être très long et très ennuyeux. Et donc, voilà. Donc, regardez notre site web. C'est très facile de rechercher tous les cadets. Vous verrez les cas récents. Bon, en toute sincérité, je ne les trouve pas très excitants parce que pas très consistants en termes de des cas avec deux témoins indépendants, par exemple, on n'en a pas. Voilà, donc c'est des pas de photos. Donc c'est toujours, dans les cas récents, en tout cas, c'est du témoignage unique. Donc avec ce que vaut le témoignage unique.
Voilà. Moi, j'ai une petite question toujours à François. Si tu peux donner un ordre de grandeur, il y a quand même énormément de photos d'OVNI, hein, des ports, de toutes sortes. Quel est le volume à peu près de ce qui a été analysé par IPACO ou par d'autres moyens? Ça représente, je suppose, encore un pourcentage très petit.
Oui.
Donc, c'est que le début encore de l'analyse photo.
Non, et puis surtout, donc, les outils. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que l'intérêt du genre d'effort qu'on fait, enfin l'intérêt potentiel, c'est d'avoir des outils qui permettent de travailler vite. Parce que le problème, c'est que certains dossiers sur lesquels on a travaillé il y a 10 ans, on y mettait 3 jours. Bon, aujourd'hui, avec l'outil actuel, on va faire exactement le même boulot en 5 minutes. Donc ça permet aussi d'espérer, avec le temps, pouvoir en faire plus, parce que, comme tu dis, le pourcentage est minuscule de ce qu'on a pu analyser en détail.
Bonjour. Moi, j'avais une petite question pour Mme Fedos. Est-ce que, Madame, vous êtes intéressée au cas où les témoins décrivent justement une disparition du bruit ou de l'environnement sonore dans leur témoignage?
Non, j'avoue que, personnellement, bon, l'acoustique est mon domaine d'origine. L'ufologie, j'y suis de façon beaucoup plus récente. Donc personnellement, je n'ai pas eu encore l'occasion de me replonger dans des cas où il y aurait vraiment des aspects sonores étranges, hormis des cas auxquels j'étais confrontée au fur et à mesure. Ceci étant, il peut être intéressant de toute façon de le faire. J'y ai une curiosité personnelle. C'est pas par hasard que j'ai travaillé longtemps dans le domaine de l'acoustique. Effectivement, les apparitions soudaines de bruit sont étranges, les disparitions soudaines sont étranges aussi. C'est quelque chose que chacun est amené à constater dans sa vie, de toute façon, au jour le jour. Je n'ai pas encore fait cette démarche. Pourquoi pas?
Merci.
De le faire de façon systématique.
J'ai une deuxième petite question aussi. Là, c'est l'enquêteur qui va parler. Est-ce que vous connaissez des médicaments qui pourraient déclencher des bruits chez le témoin ou des acouphènes?
Alors, au sens propre, non. Ceci étant, disons que je ne connais pas d'effet secondaire qui aurait un effet spécifiquement orienté illusion sonore ou acouphène. Ceci étant, j'ai entendu dernièrement parler de médicaments dont les effets secondaires seraient proches de délire schizophrénique. Et un délire schizophrénique peut tout à fait s'associer à des illusions sonores. Donc oui, certains médicaments pourraient avoir comme effet secondaire que la personne ait pensé entendre certaines choses.
Merci.
Je vais compléter la réponse sur les médicaments. Là, j'ai fait des recherches récemment sur les médicaments qui soigne la maladie de Parkinson, et il y a des cas connus donc d'hallucinations acoustiques.
Je voudrais revenir sur le problème de savoir s'il existe des photos qui résistent. Je crois qu'on devrait poser la question à Richard Haynes, parce que je me souviens d'avoir vu une conférence de Richard Haynes où il exposait au moins un cas de photo qui pour lui avait résisté. Nous avons la chance de l'avoir ici. Peut-être il faudrait lui poser la question.
I'll translate for so the question is Richard, we are talking about photographs related to unidentified phenomena. I think you've talked about it in a previous conference. Have you in mind a case with a photograph unexplained? Remind us the case with the photograph, which is still unexplained. Do you remember?
The case you presented in a previous conference. Hmm.
I don't remember that particular photograph, but I have investigated a number of photographs that remain unexplained. I can say that. But if you're referring to a specific one, I'm afraid I can't... I have several, yes, that's right. I do. I'm sorry, that's the only answer I could give.
Je vais compléter ma propre réponse de tout à l'heure. Outre les effets secondaires de médicaments, on peut tout à fait imaginer qu'au réveil, une personne conserve en mémoire de façon très présente des sons imaginés, si j'ose dire, en rêve. Sur les images, c'est quelque chose qui est connu, on appelle ça les images hypnagogiques, une image qui reste superposée à la réalité après le réveil. Je ne dirais pas que ça m'est arrivé au niveau sonore, mais je n'en étais pas loin. De me réveiller avec un rêve qui est encore tellement présent que j'avais encore l'impression de conserver en mémoire le son que j'avais imaginé en rêve. Donc on peut tout à fait imaginer que quelqu'un se réveillant d'une sieste imagine, superpose à la réalité qui est autour de lui au réveil un son correspondant au rêve qu'il faisait avant de se réveiller.
C'est pour Madame Fedos également. Désolé.
Quel succès, Gaëlle.
Je n'en demandais pas tant.
Non, je voudrais savoir, Madame, si vous êtes en mesure de pouvoir identifier des sons sur des bandes vidéo.
Personnellement, sur des documents vidéo. Personnellement, non, parce que c'est un domaine que j'ai quitté. En fait, c'est un domaine où je travaillais il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Bon, je suis encore en contact avec quelques laboratoires qui, en l'occurrence, à l'heure actuelle, travaillent plutôt sur les sons sous-marins. Donc, est-ce qu'ils seraient en mesure? Je ne sais pas. Maintenant, est-ce que des laboratoires sont en mesure de le faire? Oui, certainement. Plus ils auront d'enregistrements différents, meilleure sera l'analyse. Plus ils auront d'informations sur le mode d'enregistrement, sur l'appareil qui est enregistré. C'est un peu la même problématique que sur l'analyse visuelle. Mieux est connu l'appareil avec tous les logarithmes de traitement du son qui ont été utilisés, meilleure sera l'analyse. Mais oui, on peut remonter, il y existe de façon plus ou moins officielle, de façon plus ou moins complète, je ne sais pas à l'heure actuelle, des bases de données de son, en particulier sur les bateaux, les sous-marins, les avions.
Si on suspecte qu'il s'agit d'avions, par exemple, est-ce qu'on pourrait... identifier avec certitude.
Surtout par rapport à ce que disait monsieur tout à l'heure. Alors déjà, un sous-marin, je vous dirais oui, de façon formelle, parce qu'à l'heure actuelle, ils sont localisés par des techniques sonores. Mmh. Sur les avions, je suppose que oui, on y arriverait plutôt bien. Quoi.
D'accord. Merci.
C'est encore une question pour François Louange, mais qui va un peu au-delà de votre exposé. Il y a quelques années, vous avez établi un audit interne au GEPAN Est-ce que vous pouvez, en deux, trois mots, nous expliquer l'importance stratégique que ce document a eue par rapport à la continuité de l'existence du GEPAN ?
Oui, volontiers. Enfin, bon, l'histoire est probablement connue d'un certain nombre d'entre vous, mais c'est en l'an 2000, le directeur général du CNES de l'époque, Gérard Brachet, donc j'avais l'honneur et le plaisir de compter parmi mes amis, puisqu'on avait travaillé ensemble sur d'autres sujets professionnels qui étaient les spots et les satellites de télédétection, qui s'est posé des grosses questions sur l'existence de son service qui battait de l'aile depuis très longtemps sous le nom de CEPRA, et que beaucoup de gens souhaitaient voir supprimer, d'autres voulant au contraire qu'il soit remis en forme. Donc il a souhaité qu'un audit soit fait. Bon, il se trouve que la société que je dirigeais à l'époque était en mesure de faire cet audit. Bon, en l'occurrence, je l'ai fait, c'est moi qui ai fait le travail, mais enfin, c'était quand même dans un cadre industriel. Et l'un des buts principaux de la direction était d'avoir les avis de responsables du plus haut niveau possible des différents corps de métier potentiellement concernés par ça. Alors ça veut dire aussi bien le monde de la recherche, j'ai vu le président du CNRS, le monde des militaires, j'ai vu quantité de gens des états-majors ou à Matignon et autres, le monde de la presse, je suis allé voir les grandes chaînes de télé, etc., pour avoir leur avis sur la question et la justification de continuer ça. Alors si je la fais courte, disons qu'il y avait deux motifs principaux. Le premier motif était le motif scientifique, c'est-à-dire, en gros, la science se doit, quand elle est face à quelque chose qu'elle n'explique pas, d'essayer de comprendre. Ça paraît assez naturel, mais même sur ce point-là, beaucoup de gens, y compris les scientifiques, disent « oui, mais bon, il n'y a pas assez d'éléments, on n'a pas assez d'argent, c'est pas important ». Et la deuxième approche est une approche civique, à savoir que le sujet soit sérieux à la limite ou pas, c'est pas le problème. Les gens s'y intéressent beaucoup, des organismes s'y intéressent, y compris dans le domaine de l'aviation, on se pose des questions parce qu'il y a des risques à la clé. Donc, est-ce que l'État se doit de faire quelque chose ou est-ce qu'il doit laisser la place à tous les fantaisistes qui courent dans la nature et les sectes et tout ce qui s'ensuit ? Et donc, j'ai eu l'honneur de faire cet audit, de rencontrer une trentaine de personnalités, de faire des comptes rendus de toutes leurs opinions et d'arriver à une conclusion qui était la recommandation de redémarrer le GEPAN sous son ancien nom, parce qu'il était beaucoup plus significatif que ses propres, avec un certain nombre de moyens proposés. Et avec aussi l'ambition de faire un peu plus de communication. Et ça s'est traduit par une décision un petit peu décalée dans le temps, mais de faire en gros exactement ce qui était dans les recommandations de cet audit, avec l'idée extrêmement brillante que j'ai trouvée de rajouter un « i » dans le nom pour bien faire voir que l'on voulait mettre en avant l'information. C'est ce qui a été fait par les différents directeurs du nouveau GEPAN depuis, avec l'ouverture du site et la mise en ligne progressive d'un tas de choses au bénéfice de tout le monde.
La pression médiatique et sociale finalement a été plus forte que la démarche scientifique pour continuer. C'est le fait de se dire ça interpelle l'opinion.
C'était, oui, en gros, encore une fois, la synthèse, c'était il y avait quand même une majorité pour dire que la raison scientifique était suffisante pour justifier quelque chose sans toutefois aller y mettre des fortunes. Bon, on y met un petit peu. D'ailleurs, il n'y avait pas besoin de beaucoup. Il ne faut pas rêver. On en sait trop peu sur ce sujet pour investir des milliards. Il y avait une petite majorité pour faire ça et une énorme majorité. Je crois qu'à une exception près, tout le monde était d'accord pour dire, y compris des gens qui n'avaient pas du tout les petits hommes verts dans leur cœur, pour dire on a le devoir civique de faire quelque chose, de répondre aux gens, de trouver des réponses et de disséminer l'information. Voilà.
Je vais compléter en disant que étant jeune responsable du GEPAN, j'ai lu ce rapport d'audit que je considère comme ma feuille de route aujourd'hui. C'est-à-dire que je dirige le GEPAN en essayant de répondre au mieux aux attentes de la société exprimées dans ce rapport. Voilà. Alors ceux qui ne l'ont pas lu, je vous engage à le lire. Il est en téléchargement libre sur le site du GEPAN. Vous verrez les bonnes raisons de continuer ce service et l'esprit dans lequel il faut faire, c'est-à-dire répondre aux questions de la société, questions scientifiques d'une part, et questions de réponse au public de quelque chose qui paraît énigmatique.